Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.
Bonjour à vous tous qui êtes au rendez-vous mensuel de Donnez-moi de vos nouvelles. J'ai choisi ce mois-ci de partager avec vous quelques récits de Luis Sepúlveda. Merci à cet ami qui m'a fait découvrir les roses d'Acatama. Le nom de Sepúlveda évoque pour beaucoup d'entre nous le vieux qui lisait des romans d'amour ou l'histoire de la mouette et du chat qui lui a appris à parler. Derrière ces titres connus, il y a un écrivain chilien attachant, une grande figure de l'engagement pour les droits de l'homme, pour les droits de la planète et des peuples premiers. Archétype d'une génération de militants progressistes latino-américains, il a tout vécu, utopie, dictature, exil et désillusion. Mais contrairement à d'autres, il n'a jamais abdiqué ses convictions profondes et encore moins sa foi inébranlable en l'être humain. En 1997, il s'installe dans les Asturies avec sa femme Carmen. Il dit « C'est une région de vieilles traditions de lutte ouvrière qui est restée à gauche, une culture toujours vivante. Écrire et résister était sa devise ». Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Mais il ne peut rien contre le Covid qui l'emporte le 16 avril 2020, à 70 ans. Il est enterré à Oviedo, dans ce pays où il avait choisi de vivre. Il n'est jamais retourné au Chili, dont il jugeait sévèrement les gouvernements successifs. Cette émission est un modeste hommage.
La recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Histoire marginale, qui aurait dû être le titre du recueil. Il y a quelques années, j'ai visité le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Dans un silence atroce, j'ai parcouru les fosses communes où gisent des milliers de victimes de l'horreur, en me demandant dans laquelle se trouvaient les restes de cet enfant qui nous a légué le plus émouvant témoignage sur la barbarie nazie et la certitude que la parole écrite est le plus grand et le plus invulnérable des refuges, car ces pierres sont soudées par le mortier de la mémoire. J'ai marché, cherché, mais je n'ai trouvé aucune indication qui me conduise jusqu'à la tombe d'Anne Frank. À la mort physique, les bourreaux avaient ajouté la deuxième mort de l'oubli et de l'anonymat. Un mort est un scandale, 1000 morts sont une statistique, affirmait Goebbels. C'est ce que répétèrent, et répètent encore, les militaires chiliens, argentins et leurs complices déguisés en démocrates. C'est ce que répétèrent et répètent encore les Milosevic, Mladic et leurs complices déguisés en négociateurs de paix. C'est ce que nous crachent les massacreurs d'Algérie, si près de l'Europe. Bergen-Belsen n'est certes pas un lieu de promenade, car le poids de l'infamie est oppressant et à l'angoissante question « Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que cela ne se reproduise pas ? » répond le désir de connaître et de raconter l'histoire de chacune des victimes, de s'accrocher à la parole comme unique conjuration contre l'oubli, de raconter, de nommer les faits glorieux ou insignifiants de nos pères, les amours, les enfants, les voisins, les amis, de faire de la vie une méthode de résistance contre l'oubli. Car comme le soulignait le poète Guimarães Rosa, raconter, c'est résister. À une extrémité du camp, tout près de l'endroit où se dressaient les infâmes fours crématoires, sur la surface rugueuse d'une pierre, quelqu'un, mais qui, avait gravé peut-être à la pointe d'un couteau ou d'un clou le plus dramatique des messages. J'étais ici et personne ne racontera mon histoire. J'ai vu l'œuvre de nombreux peintres, mais qu'ils me pardonnent, jusqu'à maintenant j'ignore le choc émotionnel que, hormis le cri de Munch, peut provoquer un tableau. J'ai regardé d'innombrables sculptures, mais je n'ai trouvé la passion et la tendresse exprimées en un langage que les mots n'atteindront jamais que dans celle d'Agustini Barola. J'ai dû lire des milliers de livres, mais jamais un texte ne m'a semblé aussi dur, énigmatique, beau et en même temps déchirant que cet écrit sur une pierre. J'étais ici et personne ne racontera mon histoire. Cette phrase est le moteur de ce recueil de 35 histoires marginales. Un hommage à 35 héros inconnus ou presque, rencontrés lors de son exil ou de ses nombreux voyages. Les vrais héros, ceux du quotidien, ceux qui n'apparaissent pas dans les livres d'histoire, mais qui par leurs actions ont marqué leur entourage. 35 portraits émouvants, de thématiques très différentes, mais portant tous les valeurs de Sepúlveda. Tous ces héros résistent face à la dictature, à la civilisation dévorante, à la privation de la liberté sous toutes ses formes et à l'injustice.
Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar. No hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. Es lo que pasa, dime, no calles más.
Les roses d'Akatama. Freddy Taberna avait un carnet à couverture cartonnée dans lequel il notait consciencieusement les merveilles du monde. Et celles-ci étaient plus de 7. Elles étaient infinies et se multipliaient. Le hasard voulut que nous naissions le même jour, du même mois et de la même année, mais séparés par 2000 kilomètres de terre aride, car Freddy était né dans le désert d'Atacama, non loin de la frontière qui sépare le Chili du Pérou, et ce hasard fut une des très nombreuses raisons qui cimentèrent notre amitié. Un jour à Santiago, je le vis compter tous les arbres du parquet forestal et noter dans son carnet que l'allée centrale était bordée de 320 platanes plus haut que la cathédrale d'Iquique, qui avait presque tous des troncs si gros qu'il était impossible de les entourer de ses bras et qu'à côté du parc coulait paisiblement le Rio Mapocho et que c'était un bonheur de le voir passer sous les vieux ponts de fer. Quand il me lut ses notes, je lui dis qu'il me semblait absurde de mentionner ces arbres, car Santiago comptait de nombreux parcs avec des platanes aussi hauts ou plus hauts que ceux-ci, et que traitait si poétiquement le Rio Mapocho, un faible courant d'eau fangeuse qui charrie des ordures et des animaux crevés, me paraissait disproportionné. « Tu ne connais pas le Nord. C'est pour ça que tu ne comprends pas, » répondit Freddy. Et il continua à décrire les petits jardins qui conduisent au Cerro Santa Lucia. Après avoir sursauté au coup de canon qui signale quotidiennement midi à Santiago, nous allâmes boire quelques bières à la Plaza de Armas, car nous avions une de ces énormes soifs que l'on a à 20 ans. Quelques mois plus tard, Freddy me fit découvrir le Nord, son Nord, aride, desséché, mais riche en mémoire et toujours prêt au miracle. Nous partîmes d'Iquique aux premières lueurs d'un 30 mars et avant que le soleil s'élève au-dessus des montagnes du Levant, la vétuste Land Rover d'un ami nous emportait sur la panaméricaine, droite et longue comme une aiguille interminable. À 10 heures du matin, le désert d'Atacama se montrait dans toute sa resplendissante inclémence et je compris pourquoi la peau des gens d'Atacama semblait prématurément vieillie, creusée de sillons laissés par le soleil et les vents chargés de salpêtre. Nous visitâmes des villages fantômes, aux maisons parfaitement conservées, leurs pièces bien rangées, les tables et les chaises n'attendant que les invités, des théâtres ouvriers et des sièges syndicaux prêts pour la prochaine revendication, et des écoles avec leurs tableaux noirs pour y écrire l'histoire qui expliquerait la mort subite des exploitations de nitrate. Ici est passé Buenaventura Durruti. Il a dormi dans cette maison. Là, il a parlé de la libre association des ouvriers, indique Freddy en me montrant sa propre histoire. Au crépuscule, nous nous arrêtâmes dans un cimetière aux tombes ornées de fleurs en papier desséché, et j'ai cru que c'était les célèbres roses d'Atacama. Sur les croix étaient gravés des noms espagnols, aymaras, polonais, italiens, russes, anglais, chinois, serbes, croates, basques, asturiens, juifs, unis par la solitude de la mort et le froid qui s'abat sur le désert dès que le soleil s'enfonce dans le Pacifique. Freddy prenait des notes dans son carnet ou vérifiait l'exactitude de celles qu'il avait déjà prises. Tout près du cimetière, nous étendîmes nos sacs de couchage et nous nous mîmes à fumer et à écouter le silence, le murmure tellurique de millions de pierres qui, réchauffées par le soleil, éclatent imperceptiblement sous la violence du changement de température. Je me rappelle que je m'endormis fatiguée d'observer les milliers d'étoiles qui illuminaient la nuit du désert. Et qu'à l'aube du 31 mars, mon ami me secoua pour me réveiller. Mes sacs de couchage étaient trempés. Je demandai s'il avait plu. Freddy répondit que oui. Il était tombé une pluie douce et fine, comme presque tous les 31 mars à Atacama. En me redressant, je vis que le désert était rouge, d'un rouge vif, couvert de minuscules fleurs couleur de sang. Les voilà, les roses du désert, les roses d'Atacama. Les plants sont toujours là, sous la terre salée. Les gens d'Atacama les ont vus, et les Incas, les conquistadors espagnols, les soldats de la guerre du Pacifique, les ouvriers du nitrate, elles sont toujours là, et fleurissent une fois par an. À midi, le soleil les aura calcinés, dit Freddy en prenant des notes dans son carnet. Ce fut la dernière fois que je vis mon ami Freddy Taberna. Le 16 septembre 1973, 3 jours après le coup d'état militaire fasciste, un peloton de soldats le conduisit en rase campagne aux environs d'Iquique. Il pouvait à peine bouger. Il lui avait cassé plusieurs côtes et un bras. Il ne pouvait presque plus ouvrir les yeux car son visage n'était plus qu'un hématome. « Pour la dernière fois, Vous vous déclarez coupable ? Demanda un lieutenant du général Relano Stark, lequel assistait à la scène. Je me déclare coupable d'être un dirigeant étudiant, d'être un militant socialiste et d'avoir lutté pour défendre le gouvernement constitutionnel, répondit Freddy. Les militaires l'assassinèrent et enterrèrent son corps dans un endroit secret du désert. Des années plus tard, dans un café de Quito, un autre survivant de l'horreur, Ciro Valier, me raconta que Freddy reçut les balles en chantant à plein poumon la Marseillaise socialiste. 25 ans ont passé. Neruda a peut-être raison quand il dit « Nous, ceux d'alors, nous ne sommes plus les mêmes. » Mais au nom de mon camarade Freddy Taberna, je continue de noter les merveilles du monde dans un carnet à couverture cartonnée.
Qu'est-ce que passa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán. Te gustarán, confía como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más.
Baleine de Méditerranée. 1988 fut déclarée année des océans par pure convention, parce qu'il fallait célébrer quelque chose. Elle aurait pu aussi bien s'appeler année des forêts, et celle-ci aurait continué à brûler, à disparaître de la planète, dans la totale indifférence du gouvernement négligent, signataire de traités de protection et de développement des forêts. Elle aurait pu aussi s'appeler année de l'atmosphère, et les pays industrialisés n'auraient pas pour autant interrompu les émanations qui trouent la couche d'ozone et sont responsables du réchauffement de la croûte terrestre. Toutes ces réalités absurdes et douloureuses peuvent conduire facilement au pessimisme. Mais heureusement, la certitude qu'existe des personnes et des organisations qui consacrent leurs efforts à la préservation du milieu naturel et incitent à pratiquer un droit élémentaire, celui de décider collectivement de ce que nous voulons faire de notre petite planète, autorise une dose d'espoir au milieu de tant d'aveuglement mercantile. Je me rappelle un soir, au bord de la mer, au nord de la Sardaigne. Nous étions un groupe d'amis en train de contempler le soleil couchant qui nous quittait pour illuminer d'autres terres à l'ouest, quand soudain monta de la mer le chant unique des baleines. Ce son aigu qui a quelque chose d'une musique futuriste et qui impressionne quiconque l'entend. J'ai vu et entendu des baleines au Groenland, dans le golfe de Californie, dans la péninsule Valdez et au Cap Horn où s'étreignent les deux grands océans. Mais là, c'était la première fois que je sentais leur présence en Méditerranée. Il y en avait plusieurs, Elles émergèrent avec ces majestueux mouvements qui caractérisent les grands cétacés. D'abord les têtes bombées, puis les dos courbés sur l'eau, et enfin les queues fouettant les vagues ou plongeant comme de sombres papillons extraordinaires. Elles étaient là depuis des temps immémoriaux, bien avant que les Romains appellent Costa Balenae les rives du golfe de Gênes, ou Portus Delphini, que des siècles plus tard nous appellerions Portofino. Elles étaient là en Méditerranée, alimentant l'imagination et provoquant l'admiration, rappelant les limitations de l'existence humaine, servant d'inspiration à des légendes telles que celle du Léviathan, ou nous disant simplement que dans la vie, il y a de l'espace pour tous. Quand je vis ces baleines de la côte nord de Sardaigne, je ne pus réprimer un frémissement de peur en pensant dans quelle mer elles évoluaient. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une mer ne fut aussi maltraitée que la Méditerranée, pillée jusqu'à l'extinction de nombreuses espèces, humiliée par toutes les formes possibles de pêches illégales, et ses eaux sillonnées par toutes sortes de marins d'eau douce qui ne voient dans la mer qu'un passe-temps, un parc de loisirs qu'ils pourraient tout aussi bien trouver à Las Vegas ou à Disney World. Évidemment, il n'existe pas d'inventaire des scooters des mers ou des embarcations sportives, rapides, criminellement rapides, qui fendent tous les jours les eaux de la Méditerranée. Il y a pourtant des rapports, quoique succincts, qui font état de collisions avec des dauphins déchiquetés par les hélices, des témoignages de centaines de pêcheurs qui, à bord de leurs bateaux lents, ont dû assister impassibles au jeu que quelques crétins argentés se permettent avec les cétacés qui passent devant leurs embarcations sportives. Il y a deux produits de l'ingéniosité humaine que je déteste par-dessus tout, la tronçonneuse et le hors-bord. Des millions d'hélices agitent les eaux de la Méditerranée comme s'il s'agissait d'un énorme mixeur dans lequel on prépare une boisson mortelle. Je sais qu'il est très difficile de légiférer contre le marché, plus encore contre le marché du loisir irrationnel, et bien plus encore de prendre une mesure qui soit respectée à l'échelle internationale, limitant la vitesse, la pollution et les zones de navigation de ces pseudo-marins estivaux. Mais la création d'une région protégée, d'un sanctuaire qui permettrait le développement et la reproduction d'une vie animale, est une mesure urgente, indispensable, si nous voulons que les grands animaux de la mer soient sauvés de l'extinction en Méditerranée. Je suis très pessimiste sur la possibilité d'émouvoir les oisifs fortunés. Cependant, par une sorte de foi en l'espèce humaine, je veux croire que dans un futur pas trop lointain, quelque industriel ou banquier, au lieu d'offrir à son fils adolescent un scooter des mers, l'invitera à aller à ce même endroit du nord de la Sardaigne où j'ai vu les baleines. Et là, avec les enfants des pêcheurs, ce gamin s'émerveillera du spectacle des cétacés en mouvement dans leur espace naturel et protégé. Car la vie est et sera toujours le plus digne et le plus prometteur des cadeaux. Il est encore temps de sauver les baleines et les dauphins de Méditerranée. Il est encore temps de rendre à la mer des cultures un peu de tout ce que nous lui avons arraché.
Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, confía ya vas a ver, porque ni Quique todos van a
Pirate de l'Elbe. Une rue de Hambourg porte le nom du bourgmestre Simon von Utrecht, mais presque aucun hambourgeois ne sait qui fut cet individu, ni pourquoi il a mérité qu'on se souvienne de lui. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il ordonna l'exécution d'un homme qui, lui, reste vivant dans les mémoires irrévérencieuses par des centaines de chansons et de récits qui se raconte au bord de la mer du Nord ou dans les cafés chaleureux de Wedel et de Blankenes. L'homme dont on se souvient ainsi s'appelait Klaus Störtebeker et était un pirate, le pirate de l'Elbe. En 1390, la Ligue hanséatique imposée par le fer et par le feu sa domination mercantile sur l'Atlantique Nord et la mer Baltique. La Ligue avait instauré des impôts absurdes, fixé des prix arbitraires aux artisans et aux agriculteurs, et sur leurs 1000 bateaux, les capitaines hanséatiques avaient recours à la potence pour châtier la moindre faute. Mais comme cela s'est toujours passé dans l'histoire, un groupe de marins commandé par Klaus Störtebeker, un géant au visage féroce et à la barbe rousse, finirent par dire non, assez d'impôts, de fouets et de cordes, et à l'issue d'une mutinerie, s'emparèrent d'un navire qui commença de naviguer sous le drapeau de la liberté. En 1392, dans l'île de Gotland, les hommes de Störtebeker dictèrent leur déclaration de principe à un prêtre qui traduisit en latin les paroles prononcées dans tous les dialectes parlés au nord de l'Europe. Elle disait que les hommes sont choisis par Dieu pour pratiquer le bonheur et que seul le bonheur dispense la vitalité nécessaire pour endurer n'importe quelle pénurie. Dès lors, ils décidèrent de s'appeler Die Vitalinbrüder, les frères vitaux, et devinrent le fléau de la Ligue hanséatique. Ils arraisonnaient les bateaux chargés de marchandises, interrogeaient les marins sur les derniers châtiments infligés, et nombreux furent les officiers et les capitaines qui sentirent dans leur chair les coups de griffe du chat à sept queues, ou l'air raréfié du gibet. Le butin était réparti, une moitié pour la confrérie, l'autre moitié aux populations riveraines de l'Elbe ou des côtes de la Baltique. L'arrivée de Störtebeker et des Vitalinbrüder était attendue comme une bénédiction par les pauvres de l'époque. comme il fallait s'y attendre. La ligue hanséatique mit à prix la tête du pirate et des dizaines de capitaines allemands, suisses et danois se lancèrent à sa poursuite. Ils n'eurent pas la tâche facile, car Klaus Störtebeker connaissait tous les secrets de l'Elbe et résista jusqu'au premier mois de 1400. Un matin de printemps de cette année-là, tout Hambourg se donna rendez-vous à Teufelsbrücke, le pont du diable, pour assister à l'exécution du pirate et d'une centaine de ses camarades. Simon von Utrecht, le bourgmestre, prononça la sentence d'une voix ferme. Mort par décapitation. Le bourreau fit briller son épée et attendit la première victime qui devait être un simple matelot, car une partie du châtiment infligé à Störtebeker était de voir mourir ses hommes. Alors le pirate à barbe rousse prit la parole. « Je veux être le premier. Et de plus, monsieur le bourgmestre, je vous propose un marché pour améliorer le spectacle. » « Parlez, » ordonna Simon von Utrecht. « Je veux passer le premier. Je veux être décapité debout. Et je veux que pour chaque pas que je ferai après que ma tête aura touché le sol, un de mes hommes soit gracié. » « Vive le pirate de l'Elbe !» cria quelqu'un dans la foule. Et le bourgmestre, persuadé que tout cela n'était que fanfaronnade, accepta. La sifflante lame d'acier fendit l'air du matin, entra par la nuque et ressortit par le menton du pirate. La tête tomba sur les planches de l'échafaud et, à la stupéfaction générale, le décapité fit 12 pas avant de s'effondrer. Cela eut lieu un matin de printemps de l'année 1400. Presque 600 ans plus tard, la première semaine de juillet 1999, la police de Hambourg arrêta un groupe de jeunes qui tentaient pour la énième fois de changer le nom d'une rue. Ils portaient de longs autocollants bleus aux lettres blanches sur lesquels on pouvait lire « Rue Klaus Störtebeker » et dont ils recouvraient les plaques métalliques qui portaient le nom de l'obscur bourgmestre Simon von Utrecht. Mes enfants aiment cette histoire et j'espère la raconter un jour à mes petits-enfants. Car s'il est bien vrai que la vie est brève et fragile, il n'est pas moins vrai que la dignité et le courage lui donnent la vitalité qui nous permet de supporter ses pièges et ses malheurs.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar.
Asturie. Je déteste parler de moi parce que je n'ai jamais voulu être un personnage. Mais que diable, je suppose qu'un écrivain doit affronter sa propre vie. Un jour de 1997, triste, j'ai décidé de quitter Paris. Oh, Paris. Pour aller vivre définitivement dans le seul endroit au monde où je m'étais sentie en sécurité, les Asturies. Le choix n'a pas été bien difficile. Dans cette région du nord de l'Espagne, ouverte sur la mer Cantabrique, les marginaux tels que moi qui revendiquent le droit à la marginalité sont les bienvenus. Et il n'y a pas d'endroit plus marginal que les Asturies. Il n'y a pas de région plus douloureuse que les Asturies. Et pour le comprendre, il suffit d'être à Gijón, Langreo, Avilés ou Mieres quand retentissent les sirènes de la tragédie minière. Il arrive, et cela en pleine époque de bien-être et de nouvel ordre international, que la mine avale un ou plusieurs hommes. Alors les sereines vallées asturiennes tressaillent d'une grimace cosmique. Mais les Asturiens, dont j'ai tant appris, qui sont durs et tendres, irascibles et pacifiques, font passer avant leur colère légitime volonté et résistance, deux précieux signes d'identité. Récemment, un marginal tel que moi fut déclaré en France chevalier des arts et des lettres, et les Asturies m'ont témoigné toute leur affection. Plus tard, à Paris, on me posa l'inévitable question « Pourquoi vis-tu là-bas et pas ici ou à Barcelone, Madrid, Rome, Strasbourg ?» Pour répondre, je me rappelais la définition simple et complexe de l'humanité que m'avaient apprise les Asturiens. « Où tu es des autres, où tu es des nôtres. » Et qui sont les nôtres ? Ceux qui se font baiser, ceux qui perdent sans qu'on leur ait demandé s'ils voulaient perdre, et ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sans attendre de récompense ou de reconnaissance. En 1966, les mineurs du charbon de Lota, au Chili, restèrent 11 mois en grève et ne purent résister que grâce à l'appui des mineurs asturiens qui, en plein franquisme, trouvèrent le moyen d'aider leurs lointains camarades chiliens. Il y a 2 ans à peine, les camions chargés d'aide humanitaire qui partirent des Asturies furent les premiers à arriver à Mostar et à Sarajevo, passant outre à plusieurs reprises les décisions d'une Europe abasourdie et servile. L'intégration de l'Espagne à la communauté européenne imposa aux Asturiens un prix élevé qui s'appela reconversion industrielle, chômage, précarité, mais une fierté inexplicable pour les bureaucrates du triomphalisme leur permit d'affronter la situation de manière créative, car les sociétés solidaires ne peuvent pas être reconverties dans l'égoïsme. La froide solitude du cap de Peñas est un prétexte à la convivialité dans les Athénées ouvriers. Quelle entéléchie, diront les prophètes de la modernité. Mais dans les Asturies, si la tradition tend la main à la culture universelle, l'idée de progrès impliquant des victimes y est inconcevable. Il est facile d'arriver en terre asturienne. Il suffit de franchir l'arc doré du cidre que forment les chansons. Et là commence un monde qui est tout un programme. Vivre et laisser vivre. Ne pas criminaliser les victimes. Faire que le caciquisme politique éclate en 1000 morceaux. Croire au futur. Mais un futur où chacun aura un rôle à jouer. Chanter, boire, lire, travailler, penser. J'ai connu de nombreux pays, et il y a 3 ans que j'ai commencé à vivre dans les Asturies, à y imaginer mes livres, à intégrer une foule de marginaux dans une histoire qui ne s'écrira jamais, mais peu importe, puisque j'ai appris des Asturiens que la vie est une série infinie de petits triomphes et de grands échecs. Il n'est pas difficile d'être heureux, disent les Asturiens dans leur marginalité glorieuse, qui leur rappelle 1934, ou atroce, quand ils pensent aux visites de Franco et de Doña Carmen, pillant les boutiques des vaincus. Et moi, comme eux, je sais qu'on est heureux quand on écoute une raïta et qu'il y a du cidre dans le pressoir.
Soy asturiano, nací en Oviedo, llevo lo de primero ser Carballía. Vetusta y noble ciudad, capital del Principado. Asturias tiene un rosal junto al monte.
Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire les 30 autres récits des Roses d'Acatama ou de vous plonger dans d'autres titres de Sepúlveda. Le couvre-feu est fait pour ça, n'est-ce pas? La musique qui accompagne cette lecture est celle du groupe Quilapayún, groupe emblématique des années Allende, groupe nommé d'ailleurs ambassadeur du Chili par le président Allende. Après la mort de celui-ci, le groupe demande l'asile politique en France. Ils donneront de très nombreux concerts. Je précise que les Roses d'Acatama ont été publiées en 2001, ceci afin de bien resituer certains événements auxquels il est fait allusion dans les récits. Je remercie Charles Gilles qui donne forme à cette émission chaque mois. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, donnez-moi de vos nouvelles.
Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.